On va crever dans un studio devant un drapeau Franche-Comté.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Je lui dis d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par... Ils sont là, c'est fou.
On est là.
Ouais. Voilà. On est là.
Par Camille.
Tadam.
Hicham.
Salut.
Oh là là, grosse pêche. Comment allez-vous?
Oh bah écoute, ça va très très bien.
Pète le feu.
Ah bah parfait, ouais. Ça fait plaisir. J'espère que vous aussi, auditeurs, auditrices, vous allez bien, que vous avez
vous
apprécié l'épisode précédent avec un nouveau format. Et on va continuer sur ce format-là.
Puis on espère que toi aussi tu vas bien, patron, parce que t'as pas posé la question.
Bah voilà, voilà. Ouais. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu dans les cas. Bah écoutez, ça va plutôt bien.
Alors si, on s'est quand même vu pour les derniers épisodes.
C'est vrai, il y a 2 semaines.
Voilà.
Bah oui, ça va plutôt bien. Je suis toujours content d'être là. Et puis, je vais partager mon premier sujet depuis longtemps. Je suis trop content.
C'est magnifique.
Tu vas nous parler de la Franche-Comté?
Pas du tout. Par contre, comme dans le dernier épisode, ça va parler un peu de chevaux, un peu d'Angleterre. Voilà. Et déjà, du coup, on peut dire ça. Donc, personnellement,
de quoi tu vas parler?
Des turfistes au Royaume-Uni.
Et bah, globalement, ouais. Je vais parler des bookmakers anglais.
Génial.
Parce que voilà, c'est le sujet que j'ai écrit au tout début du confinement. Vous vous souvenez ce confinement de 2020? Fou, c'était ouf.
Ah là là.
Quand je vous envoyais des sons, quand j'avais Hicham au téléphone pour enregistrer un truc, Hicham me disait éloigne-toi, on entend les oiseaux.
Non, mais surtout moi, à l'époque où je pensais que ça durait 3 jours, donc je me dis bon, je vais vite écrire le prochain sujet. Donc sur les bookmakers anglais, et puis je vous dis personnellement, je suis pas du tout dans les jeux d'argent, je déteste ça globalement, mais je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait parce que je suis un petit peu bête.
Ouais, j'avoue.
Mais j'étais content de comprendre un petit peu mieux, voilà. Et après, on va avoir un reportage.
Qu'est-ce que putain de quoi?
Bah voilà, un reportage de notre reporter, parce que c'est ce que font les reporters. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous pouvons commencer.
On partage les gains, hein? 50-50, c'est ça, hein?
Ne serait-ce pas plutôt l'appât du gain qui vous a attiré au Japon?
On vous abattrait sur un champ de course.
Quand on fait un pari, il faut être sport.
Voilà, donc paris, bookmaker, vous voyez ce que c'est que des bookmakers?
Oui.
Ah, parfait. C'est les gens qui prennent les paris. Donc, comme je disais, effectivement, moi, je ne suis pas du tout adepte des jeux d'argent, casino, poker, les machins, enfin, ça me parle pas. Par contre, je trouve ça surprenant parce que, enfin, ça m'a intrigué parce qu'en fait, on va beaucoup les retrouver dans les films, dans la culture populaire.
Oui, c'est vrai.
Genre les films sur le casino, dans les westerns, les mecs qui vont jouer au poker et paris,
mais
les trucs. Les
bookmakers, c'est pas vraiment poker, tout ça, si? Alors, c'est pas plutôt. Comment va s'appeler le 8e fils de la reine?
Alors potentiellement, mais ça peut aussi être sur, on va le retrouver de manière beaucoup plus moderne sur les paris sportifs, trucs comme ça. Mais t'as genre des scènes sur des jeux des champs de course, par exemple, t'en as plein. Et je me suis jamais demandé pourquoi, comment, et surtout pourquoi spécifiquement en Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Je crois que c'est des champions là-bas. Enfin, eux et les États-Unis, eux, ils parient sur tout en fait.
Ouais, surtout.
Oui, au Royaume-Uni, c'est des fous.
Ouais, Royaume-Uni, c'est un peu la folie. Donc aujourd'hui, on peut parier sur le prénom du nouvel enfant de la famille royale.
Oui, j'ai vu, ça c'est génial.
On peut parier sur l'âge de la mort de Madonna.
Mais non. Ouais.
Voilà, à partir du moment où quelqu'un est prêt à prendre un pari, donc ceux qui prennent les paris, c'est les bookmakers, littéralement. À partir du moment où quelqu'un est prêt à prendre un pari, on peut faire ce pari.
Il doit y avoir beaucoup de stats, du coup, non?
De comment?
Des stats, statistiques.
Ouais, exactement. Moi, je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais effectivement, c'est basé là-dessus. Mais revenons un petit peu.
Aux chevaux. Et
du coup, à quel âge va mourir Madonna?
Écoute, pas encore, parce que là, elle a l'air de bien tenir pour l'instant, donc c'est mon pari le plus sûr.
D'accord.
En tout cas, je pense que demain, elle sera là.
Imagine, elle meurt dans les 4 prochaines semaines.
Aïe, aïe, aïe. Bon, alors.
Bref, oui, excuse-moi.
Ouais, mais j'espère que ça va pas être le cas. Bon, on va dire qu'elle est encore là. Donc on va commencer simple avec des paris simples et du pognon. Donc je me suis pas amusé à essayer de dater l'origine des paris sportifs. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu du sport, il y a des mecs qui ont voulu s'amuser dessus. Et donc voilà, sans aucun doute, l'Antiquité, après potentiellement avant, on ne sait pas. Mais à partir du moment où il y a des épreuves sportives et des combats, il y a des traces de prise de paris.
Ouais, mais je crois qu'à l'époque des gladiateurs, il y avait déjà des paris.
C'est exactement l'exemple que j'ai pris, c'est pas ouf ça.
Oh, c'est incroyable.
Donc je disais certainement avant déjà, mais on va garder cet exemple avec un combat de gladiateurs. Donc, comment alors, je reprends les bases de base. Comment s'organise un pari entre deux personnes? Donc, imaginons, je vais parier 100 balles avec Hicham sur le prochain combat. Je parie que c'est un combat avec un trace contre un récière. Tu me dis si je prononce bien, c'est ça?
Oui, non, mais c'est fabuleux.
Non, mais j'étais pas sûr. Donc, un trace contre un récière. Oui, j'ai regardé tout un document pour voir les différents trucs et je me souviens plus ce que fait un trace et ce que fait un récière. Mais si le récière, il a
Le récière, il a les filets, je crois. Filets, ouais. Voilà. Ouais, ouais.
Et le trace, je crois qu'il a une demi-armure. Enfin. Mais bon, un trace contre un récière. Donc, moi, je vais parier 100 balles avec Ichouchou. C'est plutôt facile à comprendre parce qu'il y a, bah, y a deux personnes qui sont opposées, il y a deux personnes qui parient. Donc, si le trace gagne, Hicham me donne 100 balles, parce que moi j'ai parié que c'était le trace qui allait gagner. Et si le récière gagne, bah, je donne 100 balles à Hicham.
Et s'ils meurent tous les deux?
On n'y est pas encore. Maintenant, comment ça se passe si on veut parier à plusieurs? Parce que là, on était deux, donc il y en a un qui file 100 balles à l'autre, c'est réglé. Et bah, si on veut parier à trois, bah, c'est à peu près la même situation. Donc, si on simplifie la situation précédente, c'est comme si on avait mis chacun 100 balles dans le pot commun, et après, celui qui gagne remporte le pot commun. Mmh. Ce qui fait qu'au final, tu dépenses 100, tu récupères 200, c'est comme si tu avais gagné 100. Est-ce que jusque-là, vous me suivez?
Jusque-là, oui, tout va bien.
Voilà.
Tout à fait.
L'avantage, c'est qu'on peut rajouter un nombre infini de personnes, et ça ira très bien. Imaginons, Camille et moi, on va parier 100 balles sur le trace et Hicham 100 balles sur le récière. Si le récière gagne, Hicham, tu vas faire un bénéfice de 200, parce que tu vas récupérer nos mises.
Au bout de 50.
Et oui, oh, il est fort. Si le trace gagne, Camille et moi, on gagne 50. Bon, bien sûr, si Camille et moi, on va parier des sommes différentes, ben, on va se partager le magot de manière différente, parce que ce serait pas juste, sinon. Donc, c'est un prorata de ça. Maintenant, imaginons, on va commencer à toucher aux cotes. Imaginons, avant de parier, je vous propose de vous donner un petit peu plus d'infos. Je vous dis pas juste, tiens, il y a un match, tu paries sur l'un ou sur l'autre. Donc,
trace, c'est un manchot, imagine.
C'est un peu ça. Donc, imagine le trace, c'est un énorme Golgoth de 2 mètres, genre musclé comme jamais. Le mec, c'est Vin Diesel, mais genre chacun de ses bras, c'est Vin Diesel. Donc, il y a un gros truc.
Là, il y a des côtes qui apparaissent.
Voilà, en faisant, bah, pas encore, mais en préparant le combat, il fait des saltos, des passes d'armes en coulisses, tu vois, que vraiment, il est balèze.
Okay.
Tu tournes la tête avant de faire ton pari, tu vois le récière, il fait 1m40, il a qu'un bras.
Philippe Croisant, tu sais.
Attends, mais est-ce que le trace, il a les mollets solides? C'est important, ça, hein?
Il a les mollets solides, mais on sait jamais, tu vois. Donc, okay. Le récire, tu vois, quand l'espace de 5 minutes, il s'est pété la gueule 3 fois dans son matériel. Enfin, bref. Là, si vous deviez parier, vous parieriez, pour qui?
Le plus balèze des deux.
Qui est?
Oui, j'ai pas écouté
le trace. Le trace, effectivement, mais pourquoi?
Bah, parce qu'il y a plus de chances qu'il gagne.
Ah, hein. Exactement. Parce que voilà, statistiquement, il a l'air beaucoup plus balèze, donc il a beaucoup plus de chances de gagner. C'est tellement sûr que bah, le bookmaker il va recevoir que des paris pour le trace. Donc si le trace gagne,
il y aura moins de bénéfices.
Il y a un bénéfice de zéro. Parce que si tout le monde parie dessus,
oui.
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un événement est certain, eh ben, en fait, le gain est forcément zéro. Il faut forcément qu'il y ait un risque pour gagner. Maintenant, on va dire que notre ami Juan, il a entendu parler de ce combat et c'est un joueur. Il se dit que bon, le récière, ok, il est mal parti, mais vu que personne risque de parier pour lui, bah, s'il parie juste un tout petit billet, il peut se faire une thune de ouf. Mmh. Il a très peu de chances de gagner, mais il peut se faire une thune de ouf. Donc lui, il va parier 15 balles. Petit bras. Donc là, on a.
Mais plus... ça, c'est Juan, ça m'étonne pas.
Bah ouais. Un peu opportuniste.
Mmh. Oui, opportuniste et pingre en même temps.
Exactement.
Coucou Juan.
Hyper qu'il nous écoute. Donc scénario A, le trace fonce sur le restière. Un coup d'épaule, c'est fini. Victoire du trace. Bah, Juan va perdre 15 balles, ça arrive. Camille, Hicham et moi, on va faire 5 balles de bénéfice. On s'est partagé les 15 balles de Juan. Ça revient à 0,05 fois notre mise initiale. Plutôt pas ouf, mais en même temps, pour un truc quasi certain, ça va. Maintenant, scénario B. Le trace fonce sur le récière. Sauf qu'il va trébucher sur une marche. Il va s'empaler sur l'épée du récière. Camille, Hicham et moi, on perd 100 balles. Et Juan fait un bénéfice de 300. Soit 20 fois sa mise. C'est pas dégueulasse.
Oui, il s'en sort bien, oui.
Donc c'était très incertain, il avait énormément de chances de perdre, mais une fois qu'il a gagné, il a eu beaucoup de mises. Et le bookmaker en tout ça, donc là je vous ai mis une situation où on fait un départ entre nous. On est juste trois potes, on se retrouve à la taverne, trois potes plus Juan, parce que quand on met 15 balles, on n'est pas des potes. Non, donc on est juste quatre potes, on se retrouve à la taverne et bah, on se passe l'argent de la main à la main. En fait, le bookmaker dans tout ça, il va faire un travail de logistique et de comptabilité. Donc il prend les paris, il les redistribue à la fin, en prenant bien sûr une commission au passage, parce que bah, on n'est pas des bêtes quand même, et donc il dit redistribue pas toute la cagnotte, et c'est un tiers de confiance, globalement. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt à avoir un très très bon bookmaker, ou avoir une confiance de ouf, parce que, encore une fois, le nombre de films où t'as un match de boxe clandestin, et t'as quelqu'un qui se barre avec la cagnotte, dans Snatch, dans beaucoup d'autres choses. Donc les paris ont toujours été très prisés, pardon, et ils se sont très longtemps fait dans l'égalité. Donc, argent non contrôlé qui passe par des circuits un peu bizarres, etc. Obscur. Donc, c'est une, voilà, c'est une manne parfaite pour blanchir de l'argent, etc. Et la fiabilité du bookmaker, bah, c'était ultra important parce que si un bookmaker par la pas du gain décide de se barrer ou qu'il n'est pas fiable dans son truc, ça va créer des violences, de la criminalité, ce genre de choses. Là, on a commencé, côté antiquité. On va revenir un peu plus récent et se focaliser particulièrement sur le Royaume-Uni. Et voilà, parce qu'ils ont une plutôt bonne histoire. Donc, cette partie, je l'appelais Harry Ogden et Omar Sharif. Est-ce que Omar Sharif, vous savez pourquoi ?
Parce que c'était un grand joueur de poker.
Oui, mais pas que. Parce que les courses, c'est son dada, voyons.
Ah, mais oui, bien sûr.
Parce que c'est un grand joueur qui a perdu toute sa thune là-dedans, effectivement. C'est un acteur, comédien. Mmh. Et en fait, entre deux pertes de thunes, il se renflouait en faisant des films et des pubs. Et il avait, je crois, notamment fait une pub pour le PMU en disant « Le PMU, c'est mon dada ». Dada, PMU, voilà. Elle était très bonne. Donc, se partager la cagnotte, c'est bien sympa, mais c'est pas forcément facile à appréhender. Donc, petit à petit, les bookmakers ont raffiné leur service, comme Harry Ogden. Donc, c'est une légende dans le monde des bookmakers, puisqu'on considère que c'est le premier vrai bookmaker anglais.
Le père fondateur.
Ouais, un petit peu. En tout cas, celui qu'on a connu, qui s'est fait connaître pour. Donc, lui, il va opérer vers la fin du XVIIIe siècle. On a fait un sacré bond en avant. Et à cette époque, donc, les courses hippiques étaient extrêmement populaires. Et,
c'était hippique.
Yes. Je peux pas te reprocher, voilà. J'en ai fait aussi.
Elle passe.
Alors, déjà, quelle grosse différence au niveau Paris, vous voyez, entre une course hippique et un versus, comme on avait avant.
Il y a beaucoup plus de chevaux.
Il y a plus de chevaux.
Il y avait pas de chevaux avec les.
Il y en avait pas.
Voilà. Oui, mais je veux dire, il y a plus de possibilités.
Exactement.
Là, il y a plus de probabilités aussi de ex-aequo, de trucs comme ça, etc. Ouais. Et aussi, les chevaux, ils sont tous censés avoir, entre guillemets, de base, une bonne condition physique. Et puis, tu connais pas leur bulletin vétérinaire, j'imagine.
Oh, pas forcément, je pense que si.
Si, tu connais.
Alors, justement, c'est ce que...
Tu peux savoir si Tonnerre de Zeus a roté la veille,
c'est là que c'est intéressant d'envoyer des espions. Parce que si tu vois que Tonnerre de Zeus, il a pas fait caca la veille et ni la journée d'avant, ça fait caca tous les jours. C'est-à-dire qu'un truc qui va pas.
Il va être plus lourd, il va courir moins rapidement.
Donc tu vas pas parier sur Tonnerre de Zeus. Mais donc le Harry Ogden.
Oui, il va s'arrêter pour faire caca pendant la course.
Ce qui, en plus de ne pas être efficace, n'est pas très classe. Non. Mais comme tu le disais, alors déjà pour côté antiquité, pour le combat de gladiateurs, c'est ce qu'on appelle un pari 1-N2. Peut-être que Hicham connaît ça. Je sais pas si tu fais des paris sportifs.
Non, mais j'ai essayé une fois parce qu'on t'offre 50 balles et j'ai misé malheureusement sur mon équipe de cœur. Parce que je les kiffe, et très très grosse erreur.
Ah ouais.
Parce qu'il faut jamais avoir des sentiments.
Ouais, ouais. Pas de sentiments dans le pognon.
Mais 1-N2, c'est l'équipe 1 contre l'équipe 2, enfin les taux.
Alors non, 1-N2, ça veut tout simplement dire que c'est effectivement un face-à-face, et les trois possibilités, c'est soit l'équipe 1 gagne, soit nul. Un nul, soit l'équipe 2 gagne. Oui. Donc c'est ce qu'on avait effectivement avec les gladiateurs, même si c'est quand même plutôt rare qu'il y ait des matchs nuls entre gladiateurs. Mais donc avec un face-à-face, il va y avoir un 1-N2, mais là avec les courses, c'est beaucoup plus de possibilités.
Ah bah totalement.
Donc le jeu devient plus amusant parce qu'il n'y a pas juste à faire un petit pile ou face.
Parce que en général, les courses, en plus, tu paries pas que sur le vainqueur. Tu paries sur plusieurs, sur l'ordre.
On peut dire l'ordre, ceux qui arrivent en premier. Tu peux parier qu'il y en a un qui va faire
sur les derniers.
Voilà.
Sur celui qui arrive au milieu.
Et ouais. Et donc. Toi, quand tu mets tu vas aller parier, niveau stratégie, ça commence à être chaud. Toi, tu vas juste une liste de chevaux. Comment tu peux savoir sur quoi parier? Ce qui va t'aider à savoir sur quoi parier, c'est les cotes, justement. Parce qu'en fait, la cote qu'on donne à un événement, on va dire, d'arriver à un cheval, la cote du cheval, c'est un indice qui est basé sur sa probabilité de réussir. Donc, plus il a de chances de gagner, moins tu as de chances de récupérer.
Plus
tes gains seront petits, moins il a de chances de gagner, plus tes gains seront élevés. Et en fait, Harry Ogden, c'est ce qu'on pense qu'il a inventé, justement. C'est le fait d'avoir des cotes. Donc, lui, au lieu de dire, tiens, file-moi de la thune et je te refilerai des gains, il affichait les cotes. Et du coup, tout le monde pouvait venir, avoir de connaissances sur les canassons, on pouvait tenter sa chance et essayer d'avoir une mini-stratégie là-dessus.
OK.
Donc, ce système de cotes, en fait, il existe encore aujourd'hui et c'est à très peu de choses près le même qui est utilisé aujourd'hui sur les applications de paris sportifs. Mmh. Donc, c'est. Pourquoi c'est extrêmement technique d'avoir une application de paris sportif ou de paris quel qu'il soit, c'est que en fait les personnes qui vont maintenir ces systèmes, elles vont évaluer les chances de gagner de chaque ou les chances de réalisation de chaque événement, et elles vont après augmenter la cote réduire la cote pour prélever leur petite commission. Et en fait, c'est ça qui va faire les cotes qui sont affichées aujourd'hui sur toutes les applications que vous pouvez trouver sur votre smartphone.
Et je pense que ça doit être des calculs de dingue, parce que je sais que des fois, ils prennent en compte genre le PSGOM de il y a 4 semaines. Du coup. Marseille n'a pas gagné depuis 9 ans Paris, à Paris ou contre Paris tout court. Du coup, leur cote, elle était toute rikiki. Et du coup, ils prennent ça en compte sur les cotes.
Ah, c'est extrêmement complexe et c'est vraiment des mathématiques appliquées. Ça, je pense que ça fait des formules assez ouf. Ouais. Et il y a des gens qui essayent de maintenir leur propre système de cotes. Mais j'ai un petit exemple à la fin qui vous montrera pourquoi c'est important de très bien évaluer. Parce que tu peux te retrouver très vite dans une merde noire, en fait. Le rôle du bookmaker, il est censé...
C'est de te faire perdre.
Non, même pas. Dans tous les cas, lui, effectivement, vu qu'il prélève sa commission, il est censé être gagnant à chaque fois. Par contre, s'il évalue mal les cotes, il va dans tous les cas devoir redistribuer de la thune. Donc ça peut le mettre dans un petit caca. Donc effectivement, à l'époque, ça a démocratisé les paris sportifs, beaucoup sur les canassons, même si ça a aussi permis de développer les courses de chiens, qui étaient beaucoup plus accessibles pour les classes ouvrières. Mm-hmm. Et c'était un loisir assez prisé, on va dire, de dépenser la moitié de sa paye dans des courses de chiens. Pourquoi pas, après tout, chacun sa vie.
J'imagine toujours ça avec des chiens ridicules.
Non,
je sais que c'était des chiens stylés,
avec un corgi.
Mais c'est drôle, tu sais. Mais oui, t'imaginais des chiens.
Un shih tzu.
Vraiment, ouais.
Tu vois rien.
C'est ça que je vais faire de ma vie.
Des courses de shih tzu.
Ouais, je suis trop chaud. Shih tzu versus corgi et tout. Faire une chaîne YouTube, ça va être trop bien. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, donc on est encore à peu près au 18e siècle, mais en fait, c'est toujours interdit de parier. Donc les courses sont autorisées, mais les paris sont interdits. Bah oui, c'est assez bizarre. Et je me suis demandé pourquoi c'était interdit et comment ça a changé ?
Mais oui, Elias, pourquoi c'était interdit et comment ça a changé ?
C'est pas lié au fait que ce soit des jeux de hasard ?
Pas que. Alors, si on cherche on va dire une origine un petit peu lointaine, est-ce que vous avez un petit indice de... Pardon, le micro. Un truc qui a pu faire qui a pu nous influencer, en tout cas, vis-à-vis des jeux d'argent ?
Le fait que c'est haram.
Oui, la Bible.
Bah oui.
Pas exactement haram, mais oui, effectivement, the Bible. donc pourquoi un tel tabou vis-à-vis des jeux d'argent ? Donc il y a déjà les mécanismes d'addiction, des risques de se ruiner. Donc c'est assez compliqué pour la société parce que ça crée, ça crée effectivement du chaos dans la société. Quelqu'un peut être ruiné du jour au lendemain, quelqu'un peut devenir extrêmement riche du jour au lendemain.
C'est une drogue aussi, l'excitation.
Ouais,
exactement.
Il y a des vraies dépendances.
Ouais, donc on peut comprendre pourquoi c'est dangereux pour la société. Par contre, l'avertissement le plus célèbre qu'on a vis-à-vis des paris, c'est la Bible. Donc à vrai dire, la Bible, elle dit pas...
Quelqu'un a parié sur le type de bois que Jésus allait...
Non, en fait, exactement, la Bible, elle va pas forcément interdire les paris, mais par contre, elle va considérer que l'argent a un pouvoir néfaste et corrupteur. Et donc que l'amour de l'argent va détourner de Dieu, etc. Et comme la finalité de l'activité de parieur, c'est d'augmenter sa thune, et en plus, potentiellement sans dur labeur, qui est quand même la sacro-sainte pierre angulaire du christianisme, on en a fait un péché, en fait. Parce qu'on peut gagner énormément d'argent, ce qui va te détourner de Dieu, sans dur labeur, et c'est pas bien. Donc déjà, il y a cette gêne qui a réfréné les désirs parieurs pendant des années.
C'est entre guillemets, c'est un peu minimiser la valeur de l'argent. Dans le sens où tu paries quelque chose qui est censé être très précieux et dont certains ont besoin pour vivre.
Tu ne respectes pas l'œuvre de Dieu.
Ouais, c'est pas très bien vu aussi pour ça, je pense.
Voilà, donc là, on est globalement au 1er siècle, effectivement, on ne trouvait pas ça ouf. Et aujourd'hui, à peu près 2000 ans plus tard, on peut, là, je pense qu'en 5 minutes, on pourrait faire notre premier pari sur notre smartphone. Il y a eu du chemin depuis. Je ne vais pas vous faire toutes les étapes parce que c'est assez long, mais je vais quand même vous parler des étapes, des plus grosses étapes, et encore une fois, majeures au Royaume-Uni, ce qui a aussi influencé bien d'autres pays par la suite. Une des plus importantes, c'est la loi de 1845, le Gaming Act. En fait, ça considère qu'un pari ne peut pas être considéré comme un contrat. Donc, on ne peut pas poursuivre un bookmaker qui partirait avec les mises. Ça peut faire bizarre, mais en fait, c'est aussi c'est une loi un peu dissuasive pour dissuader les personnes de parier en leur disant quoi que tu fasses, tu peux pas aller en justice avec ça pour attaquer ton bookmaker.
C'est à tes risques et périls, quoi.
Voilà. Par contre, cette loi considère également que tricher au jeu est illégal et le truquer également. Donc, au lieu de rendre les paris illégaux, on va tenter de dissuader la population en rendant le jeu dangereux. C'est un peu chelou parce qu'on voulait dissuader les pauvres de jouer pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se fier à leur bookmaker. Mais en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que ça va laisser les riches parier plus tranquillement parce que forcément, leurs bookmakers doivent être plus respectables. Mmh. Et donc, encore une fois, ça va taper sur les populations, malheureusement, les moins...
C'est étonnant, ça, dans l'histoire, quand
même. Oui, n'est-ce pas ? Donc, le fait est que ça a raté parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont planqués, et voilà. Quoi. En 1853, donc c'est 8 ans plus tard, il y a eu le Betting Act. Donc, il est illégal de tenir un établissement qui sert de lieu de pari. Donc, les lieux de pari disparaissent et tout se reporte dans la rue. Donc, ça, encore une fois, c'était très, très malin parce qu'au lieu d'avoir, au lieu qu'il y ait des paris dans un bar, dans un machin et tout, en fait, les gens faisaient ça dans la rue à la dérobée. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait du trafic d'argent dans la rue directement. Donc, potentiellement des hommes de main, donc de la violence, donc encore une fois, du fun. Donc là, il y a eu une grosse période de prohibition vis-à-vis des jeux. Et là, on arrive beaucoup plus tard, le Racecourse Betting Act en 1928. Donc en fait, c'est la création carrément d'une institution pour encadrer les paris sur les courses de chiens et de chevaux. Donc le Horse Race Totalizator Board, ou TOT, tout simplement. En fait, l'organisme qui va gérer ça. Et c'est tout simplement une façon pour l'État de toucher sa part de l'énorme gâteau des paris sportifs. Okay. Parce qu'ils ont compris que quoi qu'ils fassent, les gens voudraient continuer à parier.
Clairement.
Voilà, autant se tirer de la thune avec.
Petit message pour Darmanin avec...
Oui, avec le cannabis, tu ferais mieux de...
Te casser.
Je suis entièrement d'accord. Genre, fais en sorte... Timon, c'est pareil, c'est que parier, c'était fait par toute la population, c'était dangereux, c'était plein de choses. Du coup, autant l'encadrer, le réglementer.
Comme également la prostitution, comme plein de choses qui
ne font jamais. J'avoue que c'est des sujets, on va dire, un petit peu compliqués.
Mais... Oui, c'est archi compliqué, mais c'est des choses, en fait, je veux dire, juste le fait de dire non, c'est illégal, c'est des choses qui font que ça ne disparaît pas malgré tout. Fin...
Et en tout cas, c'est ce qui c'est a, ça donne une impression de contrôle, mais ça rend plus difficile à contrôler parce que du coup, ça se passe sous le radar. Mmh. Et absolument. Effectivement, c'est, c'est ce qu'ils ont compris avec ça. Donc, on ne peut parier que dans les établissements qui ont une licence. Donc, parfait, ils ont licencié le truc. Donc, tu veux ouvrir une maison de paris, très bien, tu payes l'État et basta. Donc, ça a facilité les choses. Encore pas parfait, mais bon, ça s'est développé petit à petit. Et enfin, moi, je vais m'arrêter là, mais le Betting and Gaming Act de 1960, donc on est beaucoup plus proche. Et là, il est maintenant légal d'ouvrir des lieux de paris, sous condition, bien sûr, pour s'assurer de la sécurité et de la santé des joueurs. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lieux de paris, les betting shops, au Royaume-Uni. On en trouve, ça pullule de ouf. Et c'est un petit peu glaucos, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est ultra glaucos.
C'est genre un PMU.
Ouais, mais avec que des trucs de jeu. Et tu sens que les gens qui sont là, ils sont pas heureux d'être là. Enfin, c'est.
Ouais.
Bah, j'ai l'impression que c'est comme des toilettes publiques, mais avec un.
Avec un écran.
Bah, t'imagines un casino en très petit et avec la même ambiance que dans des toilettes publiques. Pas ouf. Pas ouf. Mais donc voilà, depuis. Enfin, ça devient.
Fait envie.
Ouais, c'est ouf. Non, en fait, ouais, j'ai pas une très bonne image, mais parce que j'aime pas les jeux d'argent aussi, donc peut-être pas le meilleur pour donner une belle image. Mais donc, depuis 1960, donc c'est possible d'en ouvrir. Donc ça pullule de partout. D'ailleurs, je crois que là, il y a des très très vieilles maisons qui existent encore aujourd'hui, qui ont été créées quelques années après. Donc on voit un petit peu l'évolution. Et maintenant, je vais vous parler d'un petit fait que j'ai trouvé rigolo et qui s'est passé assez récemment et qui montre à quel point c'est compliqué d'être bookmaker. Alors, Ichouchou, tu vas peut-être connaître.
Dis-moi tout.
Est-ce que Première Ligue 2015-2016, ça te dit quelque chose
Avec Leicester.
Oui, Camille, ça te dit quelque chose
Oh, bah, pas du tout.
Eh bah, c'est pas grave, allons-y. Donc, nous sommes en 2015, lancement de la saison 2015-2016 de la Premier League. C'est du football ou du soccer, comme on dit aux États-Unis.
All right.
Football, un bel accent. Donc, c'est en Angleterre. Grosse activité chez les bookmakers. On peut parier sur tout et n'importe quoi. Donc, qui va arriver en demi-finale, qui va marquer le plus de buts, enfin, plein de choses. Nouvelle saison, donc plein de paris à fixer. Et aussi, forcément, qui va gagner la Première Ligue ? Liverpool, Manchester United. Ouais, j'ai vérifié qu'ils étaient dedans, mais je ne m'y connais pas du tout en foot, donc tu me dis si j'ai une connerie, je suis chaud. Donc bien évidemment, comme on a vu avant, c'est les équipes qui ont le plus de chances de gagner, qui ont logiquement la cote la plus basse, tout à fait logique, et donc moins de gains associés. Et parmi les équipes inscrites à cette ligue, la petite équipe de Leicester est tout en bas du classement, globalement.
Il me semble même s'en remonter de la nationale il y a 3 ans, un truc comme ça.
En fait, globalement, alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la cote, elle était de 5000 contre 1.
Oui.
Donc, c'est monumental. Je sais pas qui a fixé cette cote. Enfin, la plupart du temps, elle était fixée à ça. Donc, je sais pas ce qui a permis de fixer ça, mais je sais pas s'ils étaient tous.
Parce que justement, 3 ans avant, ils étaient carrément en dessous, genre l'équivalent de la Ligue 2. En dessous, genre un national, quoi.
Alors oui, mais genre 5000 contre 1, ça veut dire qu'ils étaient tous en béquille, genre ils marchaient sur les genoux.
Bah, tu sais, c'est le truc improbable, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc c'était ultra improbable, donc voilà. Mais bon, la suite, effectivement, vous la voyez venir à Millbourne. C'est finalement Leicester qui gagne le championnat. Donc plutôt grosse surprise à 5000 contre 1, surtout. Et,
je crois qu'il y en a un qui a parié 50 centimes.
Ouais, c'est fait des milliers. Bah, en fait, il y en a beaucoup. Je vais vous donner quelques stats.
Il y en a beaucoup, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'un seul.
Bah, beaucoup. Pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. Donc, cette saison, comme vous en doutez, en fait, c'est une cote très improbable, mais du coup, qui coûte extrêmement cher. Et en fait, cette saison, elle aura coûté aux différents bookmakers au Royaume-Uni plus de 25 millions au total.
Oh, c'est dingue. C'est
chaud, ça. En livres, bien évidemment. 25 millions, c'est dément. Mm. Il y a certaines anciennes enseignes, pardon, qui ont même failli fermer à cause de ça.
Tu m'étonnes.
Donc, c'est assez ouf. Et il y a 47 personnes qui ont parié sur Leicester, ce qui n'est pas beaucoup. Enfin, en tout cas, avec
quand même, 47.
Avec les stats que j'ai trouvées, en tout cas. Donc, il y a peut-être d'autres sources, mais je vais rester sur cette source. Toutes mes excuses, si elles sont erronées. Après, ce qui est rigolo, c'est que donc, 47 personnes ont parié sur Leicester initialement, donc avant le début de la saison. Elles ont dit « Ah, c'est eux qui ont gagné ». Si vous cherchez sur Internet, vous allez d'ailleurs trouver des témoignages où il y a notamment un des mecs qui a gagné des milliers de livres grâce à ça, qui dit que bah, il était bourré, il a installé une application,
ouais,
bah,
c'est celui-là que je connais, ouais.
Il a dit vous valez bien 20 balles. Il a mis 20 balles alors qu'il était tout bourré. Il le dit dans son interview, il fait ouais, j'étais un petit psy. Ok.
Et là, j'ai un mec au taf qui a parié pour Brest, champion de Ligue 1. Il a misé 50 centimes.
Et bah, dis-lui, crois en tes rêves, frère.
C'est ce que je lui ai dit.
Donc, 47 personnes ont parié sur Leicester et au final, seuls 24 ont reçu leur gain. Est-ce que vous savez pourquoi?
C'est pas une histoire de pari combiné?
Non, pas aussi compliqué que ça. Non, on va dire 47 personnes qui ont vraiment dit « Leicester va gagner » et que 24 à la fin qui ont dit « bah vas-y, raboule la thune ».
Ils ont va... Ah, et...
Vas-y, vas-y.
Ils n'avaient pas mis leur adresse sur...
Non, c'est plus, c'est quand même plus, c'est plus axé jeu, quand même.
De frappe sur Leicester.
Tout simplement parce qu'au fur et à mesure de la compétition, les bookmakers ont proposé aux parieurs de racheter leur pari.
Ah, ok.
Donc, ils leur ont dit, oh, frère, là, avec tes 20 balles, tu dois. Alors, apparemment, donc, un mec qui avait parié 20 livres aurait dû en gagner 140 000 et il a préféré revendre son pari juste avant le dernier match. Il a tout de même empoché plus de 70 000 livres. Jolie somme. Mm. En gros, les bookmakers, enfin, il y a un bookmaker qui lui a dit.
Réduit la casse, quoi.
Ouais, il lui a dit, mec, tu sais, imagine, tu vas tout perdre, c'est pas cool. Moi, je te file 70 000 balles et voilà, comme ça, on est copains. Et lui s'est dit, bah, 70 000 balles, c'est quand même cool.
C'est bien. Voilà. Ça paye des jolies vacances dans un pays très très lointain.
Et ouais, et il y a à peu près voilà, la moitié des gens qui se sont fait racheter leurs gains à différentes étapes. Forcément, ceux qui se sont fait racheter leurs gains très très tôt, bah, ils ont revendu leur pari très très bas, genre 5 000 livres, 10 000 livres, que sais-je. Et ceux qui ont revendu, bah, comme lui, la veille ou le jour même, bah, ils se sont fait des couilles en or. Et ceux qui n'ont pas du tout revendu, ils se sont fait bah, plusieurs paires de couilles en or. Voilà, c'est à peu près tout. Globalement, je n'aime toujours pas les jeux d'argent, mais j'étais content d'avoir cette petite ambiance anglaise. Voilà.
Voilà.
Pire conclusion.
Bah, merci.
Non, mais il y a plein d'histoires comme ça. Là, genre, la dernière saison qui vient de finir, il y a un mec qui a parié sur le fait qu'un joueur n'allait pas marquer un seul but
c'est horrible.
Toute la saison. Et ça fait un an et demi qu'il n'avait pas marqué. Ce mec-là, c'est Jesse Lingard. Je déteste, il joue pour Manchester, mais bon, bref. Il a marqué à la 97e minute au dernier match du championnat. Et il devait genre gagner 15 000 pounds, un truc comme ça. Et au final, il a eu dans le huc.
Ah, il a dû se chier dessus.
Ouais.
T'imagines, tu te retournes pour déboucher le champagne. Tu vois le mec qui fait ça.
Ah, mais c'est trop ça. C'est trop ça. Oh, et du coup, il a incendié sur Twitter.
C'est ouf. Mais en fait,
le joueur s'est excusé au final.
Ça, c'est drôle pour le coup que le joueur s'excuse.
Ah, j'ai toujours trouvé ça ultra intriguant. Et surtout, en fait, j'en avais marre de voir des scènes un peu à la... j'ai des mauvaises références, mais façon... c'est quoi, c'est dans... Ah, merde, j'ai plus...
Ah oui!
Non, bref, des scènes où tu vois des combats clandestins, genre de boxe thaï, de machin, et t'as des mecs.
Fight Club?
Ouais, t'as des. Non. Mais non, ils parient pas. Il y a, en fait,
ils parient pas, oui.
C'est vrai.
C'est dans Hot Shot, pardon. Dans Hot Shot, qui est, bon, certes, une parodie, mais t'as un moment où ils prennent des paris clandestins et tout. Et je sais pas, t'as un mec qui a une feuille avec plein de trucs, et puis on lui tend des billets. Moi, je comprenais pas, je me disais, ok, il touche de la thune, mais comment il sait à qui refiler et tout?
Ouais, c'est vrai que je me suis posé la question aussi.
Et à chaque fois dans les films, ça a l'air super évident, mais je me disais, je dois être très très con parce que je comprends pas. Donc, ouais, j'étais certainement.
Mais grâce à toi maintenant?
Et ouais.
On comprend.
Et ouais, du coup, ça me, bah ouais, ça m'a toujours pas donné envie de parier. parce que je trouve ça trop stressant.
C'est pas évident, c'est pas évident. Mais j'ai un autre collègue au taf, il a carrément un tableur Excel.
Ah ouais,
mais non.
Ouais, ouais, il m'a dit c'est un deuxième revenu en fait pour lui. Il y a un tableur Excel où il a plusieurs cotes et tout, et il voit où est-ce qu'il peut miser pour gagner vraiment de l'argent. Et même si c'est des faibles cotes, ça lui fait un revenu quoi. Ouais.
Et ouais. En vrai, effectivement, bah en fait c'est un peu comme le poker. Si tu peux professionnaliser, parce qu'au final ça va être des stats, donc ça va être, enfin. Pas beaucoup plus bête que la bourse globalement.
Tu sais quand te coucher, tout ça.
Ouais, voilà. Donc tu peux professionnaliser ça et toi avoir ta propre méthode de calcul, savoir que, je sais pas, tel joueur ou telle joueuse, ils sont allés voir de la famille récemment, donc ils vont avoir plus la pêche. Ou si, je sais pas, si tu regardes les sites de fans et que tu vois que ça fait longtemps qu'il a pas bougé ou j'en sais rien. Donc, ouais, non, c'est peut être très très technique. C'est passionnant, mais j'aime bien le faire avec du faux argent. Voilà. et maintenant, si on voyage un petit peu.
Allez.
On, voilà, on va voir le petit reportage.
Plus il nous manque le petit Juanito. Juan.
Eh bien, bonjour les amis. Je profite d'un petit voyage en bateau que je suis en train de faire pour tout simplement transporter de la drogue d'un pays à l'autre pour vous raconter une histoire qui se passe en juin 1942. Cette histoire, c'est celle de la bataille de Midway. Nous sommes donc plusieurs mois après l'attaque surprise de Pearl Harbor et les Japonais enchaînent des succès militaires. La Papouasie et la Nouvelle-Guinée sont menacées et en mai 1942, prend place la bataille de la mer de Corail pour défendre l'Australie de l'invasion japonaise. La rixe se solde par la perte d'un porte-avions japonais et d'un porte-avions américain. Deux porte-avions sont également méchamment amochés, le Yorktown côté américain et le Shokaku côté japonais. Le porte-avions Yorktown regagne donc tant bien que mal Pearl Harbor où il devrait rester environ 3 mois pour réparation. Mais l'amiral Spruance, qui dirige la flotte, ne l'entend pas de cette oreille et donne aux mécaniciens 48 heures pour réparer. Tu parles d'une bonne deadline de merde entre 3 mois et 48 heures. Mais il a de bonnes raisons, l'amiral Spruance, parce que lui et son pote l'amiral Fletcher, ils ont appris que les Japonais comptaient débarquer des troupes sur l'atoll de Midway, plus au nord, en s'aidant d'une énorme flotte de guerre composée notamment de porte-avions qui avaient participé à l'attaque de Pearl Harbor. Alors comment ont-ils su que les Japonais comptaient attaquer Midway, me direz-vous ? Eh bien, c'était par la ruse. Ils savaient que les Japonais avaient une cible qu'ils appelaient AF. Donc ils ont demandé dans le doute à la base de Midway d'envoyer un message au QG des forces navales disant qu'ils avaient un souci avec les distillateurs d'eau de mer. Ils ont donc envoyé le message et ni une ni deux, un message japonais est intercepté disant que AF allait manquer d'eau douce. De là, pas besoin d'être un génie pour faire le lien, AF égale Midway. Pour faire face à cette attaque, les Américains disposent de plusieurs porte-avions, l'Enterprise et le Hornet, ainsi que le Yorktown, qui, rappelons-le, est dans un état de type pas ouf. Ils sont donc moins bien lotis, mais ils disposent de l'effet de surprise, car les Japonais ignorent que leur plan d'attaque est cramé depuis longtemps. Le 3 juin, un avion de reconnaissance américain repère la flotte japonaise en direction de Midway. Du coup, le lendemain, les Américains font partir des bombardiers de l'atoll. Uniquement des bombardiers de Midway, puisque s'ils envoyaient des avions dits embarqués, c'est-à-dire des avions qui sont normalement stationnés sur des porte-avions, eh ben, ils dévoileraient leur jeu en disant « Nous aussi, on a prévu des porte-avions, les cocos. » Donc, uniquement des bombardiers qui partent de l'atoll de Midway. Bref, ils envoient des bombardiers et ils chient dans la colle puisque l'attaque foire totalement. Par contre, l'amiral japonais se dit du coup « Nous aussi, on va aller bombarder Midway un petit coup, histoire de calmer tout le monde. » Donc les Japonais envoient à leur tour des bombardiers et eux réussissent puisqu'ils détruisent la majorité des avions de chasse qui étaient chargés de protéger l'île, et ce sans perdre un seul appareil. A tel point que le pilote qui dirige l'attaque, au retour, il convainc l'amiral de faire un deuxième passage pour en remettre une couche, histoire d'être bien sûr que tout le monde est calmé, et l'amiral accepte. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'à ce moment-là, le Hornet et l'Enterprise, les porte-avions américains, sont à portée d'attaque des porte-avions japonais, soit environ 200 km. Le lendemain matin, à 8h20, l'amiral japonais Nagumo est averti que des porte-avions américains sont à portée. 25 minutes plus tard, et j'espère pour lui qu'il ait le temps de reprendre un café, on lui dit que 150 appareils se dirigent vers lui. À 9h, ils sont là, et c'est un véritable carnage. Mais du côté US. Tous les bombardiers du Hornet se font descendre. 10 des 14 avions de l'Enterprise sont abattus. Tous les avions d'escorte tombent en panne sur le chemin du retour parce qu'ils n'avaient pas assez de carburant. Et derrière arrivent les 12 torpilleurs de Yorktown, 7 d'entre eux se font dégommer et aucun ne touche la moindre cible. Bref, c'est une énorme branlée que subissent les Américains. Les Japonais sont extatiques, mais ça va pas durer. vraiment pas longtemps, parce que moins d'une heure plus tard, c'est 37 bombardiers en piqué de l'Enterprise qui s'étaient paumés en route, qui tombent sur la flotte japonaise. Et là va se produire ce qu'on appelle un retour de karma, les bombes pleuvent, deux des porte-avions japonais sont coulés immédiatement, le porte-avions Soryu sombrera quelques heures plus tard, percé par les torpilles d'un sous-marin américain, et le dernier des quatre porte-avions japonais, le Hiryu, sera sabordé le lendemain par son équipage. Et c'est ainsi que, parce qu'ils étaient à la bourre et se sont gourés de chemin, les bombardiers de l'Enterprise ont retourné à la fois le cours de la bataille de Midway, mais dans le même temps, celui de la guerre du Pacifique. Sur ce, j'arrive à bon port, donc je vais vous laisser, j'ai du travail à faire, on va essayer de faire ça plutôt discrètement. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
C'est pour ça qu'on n'a pas trop de nouvelles de Juan ces temps-ci. Il a du voyage d'affaires. Enfin,
par contre, j'ai vu les photos, il a acheté une magnifique voiture. C'est impressionnant.
Comme quoi, ça paye la drogue.
Ben ouais. Et encore une fois, voilà. Je pensais plus à la basoche. Arriver en retard, ça peut amener des trucs de ouf. Hein.
Ouais.
Comme quoi, arriver en retard plus souvent.
Voilà. Bah, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai. Et ton sujet était bien.
Et voilà.
Mais quand même. Non, j'ai quand même. C'était très cool en tout cas.
C'était
un plaisir.
Top. C'était top.
Sur ce, est-ce qu'on se donnerait pas rendez-vous la prochaine fois?
Ouais, prochain épisode.
Voilà.
Absolument.
On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. On vous embrasse. On vous remercie pour tous les messages que vous nous envoyez. Les 5 étoiles, plein de choses. C'est un plaisir. Partagez.
Continuez.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fout?
Prenez soin de vous.
Bisous. Merci à tous.
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire ?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.